I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Yeah.
Salut, c'est Juliette Katz de Coucou les Girls. Alors jusqu'à maintenant, je me suis jamais présentée parce que je me suis dit que bah peut-être vous me connaissiez, mais en fait peut-être pas du tout. Mais je sais pas, voilà, je fais des trucs sur internet, sur YouTube, sur Instagram, des photos, des vidéos, je parle de plein de sujets très différents. Et bah du coup, n'hésitez pas à me suivre si vous ne me connaissez pas, et bienvenue. Bienvenue dans le podcast. Chaque semaine, j'invite une personne pour discuter ensemble d'un sujet de société et on en parle de façon cash. Les enregistrements se font assis par terre dans une ambiance cocooning et propice aux confidences. Le podcast, c'est votre nouvel espace de liberté dans lequel je vous donne rendez-vous chaque mardi sur toutes les plateformes de streaming audio. Et également une fois par mois sur Twitch pour un épisode hors série. Le prochain aura lieu le mardi 22 novembre. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'une violence extrêmement présente dans notre société, une violence qu'on peut subir à tout âge et sous différentes formes. C'est le harcèlement, et pour ce nouvel épisode, je suis en compagnie de Sidonie. Salut Sidonie.
Salut.
Comment ça va?
Ça va très bien, et toi?
Ouais, ça va, t'es pas trop stressée?
Je l'étais en arrivant, mais vous m'avez mis très à l'aise, donc tout va bien.
Oui, parce qu'effectivement, on l'a accueilli nu.
Non, exactement.
T'imagines, on t'accueille nu, vraiment.
La belle ambiance.
C'est ça, accueil très bizarre.
Bah justement, on se met à nu, donc
exactement.
Ça peut être...
C'est vrai.
Le lien.
Exactement. Alors, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire rapidement ce que tu fais dans la vie, qui tu es, etc.
Bien sûr. Donc, je m'appelle Sidonie, j'ai 28 ans, je suis chargée de communication. J'ai eu un parcours un peu compliqué scolairement. J'ai fait de l'hôtellerie, j'ai fait de la restauration, j'ai fait ensuite un bac L, après une seconde et première technologique. Je suis partie dans le journalisme, mais c'est un milieu que je n'ai pas forcément apprécié.
Okay.
Et après deux ans et demi de grosse dépression, où du coup c'était très compliqué pour moi, j'ai réussi du coup à trouver un travail de chargée de communication où j'ai signé mon CDI.
Ça fait combien de temps là ?
Là, j'ai commencé en mars.
Ok, donc récemment là.
Ouais, très récemment. Ouais.
Et ça te plaît ? Tu te sens bien ?
Ça me plaît parce que déjà, je bosse en famille, j'ai la chance de travailler en famille.
Ok.
Et du coup, déjà, ça fait que je me sens beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus créative et j'ai déjà pas l'anxiété d'avoir une phobie sociale de personnes que je ne connais pas au travail.
Okay,
et ça, c'est une immense chance pour moi. Et puis en plus, j'ai mon bureau, donc je peux avoir mes moments de calme, mes moments de repos. Et ça, c'est hyper important pour moi, quoi.
Ouais. Bon, bah trop bien si tu te sens bien là-dedans. Est-ce que tu peux décrire ta personnalité en trois mots ?
Alors, je dirais artiste, fofolette.
Fofolette. On n'est pas sur fofolle,
non,
mais fofolette. Ok.
Parce que j'aime bien le être déjà, et puis ça fait un peu. Je suis très enfantine aussi par moment, très mature, mais aussi très enfantine. Et en dernier, je suis hyper impulsive.
Ok. Donc on a dit fofolette, impulsive et tu m'as dit quoi ?
Artiste.
Artiste. Ok. Très bien. Alors le mot ou l'expression que tu utilises sans arrêt ?
Du reste.
Du reste ?
Du reste.
Ah ouais ?
En fait, c'est un truc de famille. Depuis petite, on lui dit. Et tout le monde, quand je dis du reste, ils me disent « Hein ?»
Mais oui, ça veut dire quoi ?
Bah, du reste, j'ai oublié de te dire. C'est, tu sais, en mode...
Ah, au fait.
Voilà, exactement. Sauf que nous, on dit du reste. Et moi, c'est un truc de famille qui me paraît totalement normal. Et à chaque fois que je le dis, les gens, ils sont là. « Hein ? Mais qu'est-ce que t'as dit ?»
Genre... Ah, du reste, je suis allée chez H&M.
Ah, du reste, j'ai oublié de te dire. Exactement, c'est ça.
Ah, c'est comme une virgule pour toi.
Ouais, exactement.
Ah, c'est
marrant. Je le dis vraiment, mais tout le temps, quoi.
Je connaissais pas du tout
Mais personne ne connaît et je sais pas du coup d'où ça vient.
Bah, soit c'est un truc de famille que vous avez inventé.
C'est possible.
Soit ça vient, je ne sais pas.
Famille artistique qui invente des mots.
Bah voilà, ça doit être ça. Ok, et l'endroit où tu te sens le mieux ?
Alors, c'est bizarre à dire, mais on va dire à l'intérieur de moi, à peu près dans n'importe quel endroit du moment que j'arrive à me replier, en fait.
À te reconnecter à toi.
Voilà. Donc, ça peut être dans mon lit, comme beaucoup. Ça, c'est vraiment mon lieu de, où je sais que je vais être plutôt bien.
Ouais.
Mais vu que je fais beaucoup d'anxiété, en fait, c'est vraiment moi, ma maison mère, entre guillemets, quoi. Parce que même dans mon lit, je peux avoir des crises incontrôlables.
Ouais. Mais à partir du moment où tu te sens connectée à toi,
c'est ça.
Ça peut être n'importe où, quoi.
C'est ça, exactement. Ouais.
Ok, je trouve que c'est une jolie réponse. Qu'est-ce que tes proches disent de toi ?
Ouf ! Ça a été très compliqué. On va dire qu'ils me disent que je suis très artiste.
Ça veut dire quoi, être
artiste ? Alors, pour eux, artiste, c'est que je suis un peu dans mon monde, en fait. Tu vois, c'est... J'ai pas forcément les codes de la société ou les codes des choses. Et je vais un peu faire en fonction de moi. Et du coup, les gens ne comprennent pas forcément certaines choses que je fais.
Ouais.
Notamment même au niveau du travail, tu vois, j'ai pas forcément les codes intégrés.
T'as une manière de travailler...
C'est ça, une manière de travailler. En fait, tout dans ma manière de m'habiller, dans ma manière de parler. Il y a des mois où je peux rester genre un mois chez moi, personne va me voir.
Ouais.
Après, je vais voir plein de gens en l'espace d'une semaine. Et puis je peins beaucoup, j'écris énormément. Et je pense que c'est aussi la thérapie par l'art, quoi, qui m'a énormément aidée. Donc, un peu le côté artistique.
Ok, donc ils disent que t'es un peu artiste, quoi.
Ouais, et depuis l'enfance, c'est ça. Ouais. Apparemment, j'ai toujours été un petit peu décalée, en fait, par rapport aux autres.
Et ça te va ?
Maintenant, mais ça a été très compliqué.
Bon, bah, je pense qu'on va en parler.
Exactement, ouais.
On va rentrer justement dans le vif du sujet. On va essayer de comprendre un peu les racines du mal, entre guillemets, du harcèlement. Quand est-ce que t'as subi du harcèlement pour la première fois dans ta vie ? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ?
Ça a commencé dès le primaire. On me disait que j'avais des grosses fesses.
D'accord, ok, déjà bizarre. Mais t'avais quel âge ?
Parce que primaire, je devais avoir 8-9 ans quand tu es en primaire.
8-9 ans, d'accord. Et donc, c'était tes camarades
c'était
de
camarades,
classe.
Ouais, de classe. Ouais. Et c'est des souvenirs de... On me disait déjà que j'étais trop ronde. Et tu sais, t'as les visites médicales où en fait, t'as tous les enfants qui étaient ensemble en débardeur et culotte. Et l'infirmière avait déjà dit « Ah non, mais toi, il faut que t'arrêtes les goûters. En gros, les gâteaux au goûter, c'est fini. » Elle avait noté ça sur le carnet.
À 8-9 ans.
Et forcément, à 8-9 ans, ça a commencé dès cet âge-là. Et du coup, en fait, ça a été toujours au niveau de mon poids, au niveau de... Et puis, j'étais quelqu'un de très timide, très réservé. Donc, j'arrivais pas forcément à m'intégrer facilement. Et du coup, j'étais beaucoup attaquée sur mon physique, quoi.
Et est-ce que c'est un truc... parce que moi, ça me parle un peu. Mais est-ce que tes parents, ils t'ont mis dans une case comme ça ? Est-ce que c'est eux qui te l'ont ? Parce que moi, je sais que typiquement, bon là, c'est au-delà du harcèlement, mais moi, je sais que j'étais même pas ronde quand j'étais petite. J'étais la plus grosse de mes copines, mais sans être grosse. Enfin, quand t'es enfant, voilà. Et en fait, je crois que si mes camarades, les profs et mes parents me l'avaient pas notifié, je crois que je m'en serais jamais vraiment rendu compte ou que ça aurait jamais été un complexe. Est-ce que toi, ça a été... Enfin, ta famille te l'a pointé du doigt ? Est-ce que... Comment ça s'est passé ?
En fait, moi, je viens d'une famille où vraiment, tu dépasses la taille 36, t'es grosse, quoi.
D'accord.
Clairement, c'est... toutes les femmes de ma famille, elles étaient plus ou moins fines. Et en fait, j'avais mes frères qui étaient très virulents avec moi au niveau de mon poids. Et donc, c'était... tu vois, j'avais pas de répit, en fait. Dès que je rentrais à la maison, mes frères qui me faisaient des réflexions. Et du coup, j'ai commencé à faire de la boulimie à cause de ça. Parce qu'en fait, je mangeais mes émotions.
Mais à 8-9 ans ?
À 8-9 ans, ouais. J'ai commencé très tôt. Et j'ai jamais eu un rapport sain à la nourriture, en fait. Et je me rappelle que j'avais une sorte de défi dans ma tête... d'arriver à réussir à aller chercher de la nourriture dans la cave sans que personne me voie, en mode « Ouais, c'est une victoire, tu vois.
»
Et pour moi, c'était vraiment un moyen. Quand je mangeais, je me sentais bien, quoi. Je me sentais heureuse. C'était, Et puis après, t'as l'entrée au collège. Et ça s'est passé vers le CM1, CM2. Et puis après, bah, t'as l'entrée au collège où là, ça a été la descente, quoi. Ça a été l'enfer.
Donc, quand t'étais en primaire, c'est là où ça a commencé un peu
les prémices. Ça a commencé, mais très petit, ouais.
Et ça se faisait sous quelle forme ? Est-ce que c'était moral, physique ? Est-ce que y avait...
C'était t'es grosse, t'as des grosses fesses. Ah, regarde, Sidonie, elle a vraiment des grosses fesses. C'était plus des remarques, tu vois, qui pour eux, je pense que c'était vraiment anodin et pas du tout dans un sens méchant.
Bah, un peu quand même, on va pas se mentir.
Moi, je l'ai pris vraiment, tu vois. Je me dis, quand t'es enfant, tu te rends pas forcément compte. Et tu répètes souvent aussi ce que tes parents te disent ou ce que t'entends.
Ouais, ça c'est
aux
sûr, mais je pense aussi que quand même on est enfant, on n'est pas bête. On se rend compte que quand on dit ça, c'est pas pour être gentil, c'est parce
qu'on
est pointé.
Non, bien sûr. Mais je pense qu'ils se rendaient pas compte de l'impact que ça pouvait avoir.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Je me suis mal exprimé l'impact que ça pouvait avoir sur moi et tout ce que ça allait déclencher par la suite, en fait.
Et quand t'étais face à ça, comment tu réagissais ? C'était quoi ta première réaction ? Est-ce que t'avais honte ? T'avais peur ? Tu te cachais ?
J'avais honte. J'avais envie d'être une petite souris qui se cache. m'approchait. Je me rappelle encore que c'était les premières fois où j'avais vraiment envie d'être une petite souris qui se cache, mais tout au fond. Et je me rappelle de la scène où on était devant les ordinateurs avec, tu sais, les vieilles disquettes noires qu'on mettait. Et je me souviens que j'avais cette envie. Et en plus, en primaire, tu n'as pas le droit d'aller aux toilettes quand tu veux. Donc, tu peux même pas t'échapper, entre guillemets, de la salle. Et j'avais des larmes qui coulaient en silence parce que j'ai toujours été hyper sensible, hyper émotive. Mais je disais rien parce que je me disais, c'est normal, en fait, qu'on me dise ça.
Et donc, c'est moi qui suis pas normale à réagir comme ça.
C'est ça. Okay. Et j'avais toujours cette impression de, non, mais c'est toi, Sidonie, tu fais exprès, c'est pas si grave.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé au collège? Parce que tu dis que là, ça a été un peu la descente aux enfers.
Collège, la sixième, ça allait à peu près. Et en fait, en cinquième, ça a commencé à être des insultes, ça a commencé à être des coups. Je me suis pris des coups de poing dans la figure par un garçon de ma classe qui m'a donné un coup de poing un jour, qui m'a fait tomber dans les escaliers. C'était des « t'es sale, tu te laves pas », j'étais tout le temps toute seule. Et c'était vraiment toute la journée, on faisait même des rumeurs sur moi comme quoi j'avais traité de pute certaines personnes alors que je ne connaissais même pas ce mot. Ouais. Et en fait, toute la journée, je me levais avec une boule au ventre de me dire
«
qu'est-ce qui va encore se passer aujourd'hui quoi ?» Et le pire, je crois, c'est que dans tout ça, les profs, ils voient ce qui se passe et ils ne font rien. Et quand tu vois une gamine qui débarque tous les midis à l'infirmerie en disant « j'ai mal au ventre, je me sens pas bien
ah », ouais.
et qui te renvoie en cours en disant « non, c'est rien », alors qu'au bout d'un moment, tu devrais te poser des questions. Et moi, j'ai vraiment eu de la colère envers l'enseignement et envers quand je me suis rendu compte de ce que j'avais subi. Ouais. Et ça a été ça pendant 4 ans. Et tous les soirs, je me rappelle, je devais avoir un courage de fou parce que tous les soirs, je me disais « ok, tirons le côté positif de la chose ». Et j'essayais de voir tout ce que je pouvais transformer de positif dans ce qu'on m'avait dit, dans les insultes qu'on m'avait dit. C'était « non, mais t'imagines, elle n'aura jamais de mec. Regarde le laidron, mais c'était un monstre.
Wow. »
Et en fait, c'était ça tout le temps, tu vois, même dans les heures de classe où je les entendais parler derrière moi. Et moi, je restais à ma table et je disais rien et j'attendais, quoi.
Pendant toute ta période au collège,
la troisième, ça a commencé un tout petit peu à s'améliorer. Mais vraiment moyen. Et en fait, après, ça a été un harcèlement venant de toute ma ville. Donc, ça a pris des proportions.
Juste par rapport au collège, parce que là, tu me dis qu'à l'école, c'était sur ton poids.
Ouais.
Et au collège,
pareil.
Plus les drons,
Ça a été, elle était moche parce qu'elle était grosse, parce que vu que j'étais très brune, tu sais, j'avais un petit duvet aussi.
Ouais.
Et puis moi, je pensais pas à l'épiler à ce moment-là, parce que je m'en foutais complètement. Ouais. Donc, t'as de la moustache, mais en fait, t'es pas une femme. Et c'était vraiment tout le temps, t'es grosse, ton ventre, il ressemble à du chamallow. Et c'était tout le temps ça. Et du coup, même moi, dans ma tête, j'avais intégré le fait que, je suis grosse, je suis pas normale, en fait. Pourquoi moi, je suis pas normale? Et c'est au collège que j'ai commencé à avoir des pensées déjà suicidaires, mais même à partir de 8-9 ans, j'ai commencé à en avoir. Moi, je suis quelqu'un de tellement sensible, qui réfléchit tellement, qu'à 8-9 ans, j'ai voulu faire des tentatives où j'ai avalé de la colle et des cailloux. Donc, en soi, ça ne m'a rien fait. Décidée de mourir, quoi. Et j'ai avalé aussi des becs qui étaient dans mon jardin, qui ne m'ont rien fait, à part une bonne diarrhée.
Ouais.
Mais tu vois, je me suis dit... Enfin, maintenant que je me rends compte, je me dis, j'étais à un âge où je n'avais pas le droit d'avoir ces pensées-là. Et en fait, moi, dans ma tête, j'avais l'envie de mourir. Je me disais, mais pourquoi, en fait? Et j'avais honte par rapport à ma famille de me dire, ils doivent avoir honte de moi, en fait. Parce que vu que moi... Je vis ça tous les jours. En fait, eux, ils doivent avoir honte aussi d'avoir une sœur pareille. Ils doivent se dire, mais pourquoi ils ont une sœur pareille?
Le truc, c'est que j'ai l'impression que ça venait de tous les côtés, parce que ça venait que ce soit à l'école, comme à ta famille, ou si tu fais un 36... Enfin, parce que quand tu disais, au-delà du 36, on est grosse, mais est-ce que grosse est égal à moche pour eux?
Oui, moi, je le ressentais comme ça, clairement. C'était, tu vois, vu que ça faisait un peu de la bourgeoisie, c'était t'as une allure à avoir et être grosse... Tu ne peux pas avoir de l'allure, en fait.
D'accord.
Pour moi, je le comprenais comme ça, alors que bullshit complet, quoi.
Oui, mais à l'époque, tu le pensais aussi.
Mais à l'époque, j'en étais persuadée. Ouais. Je me disais, le jour où je serai fine, tout ira bien dans ma vie et tout sera merveilleux.
Ce sera la réponse, ce sera le
la
truc...
La réponse à toutes mes questions,
c'est ça, voilà.
Et j'avais l'impression que si je devenais mince, et ben en fait, tous les
ça
points
résoudre...
de ma vie que je ne comprenais pas allaient d'un coup aller mieux. Mon hypersensibilité, le fait que j'ai un trouble borderline aussi... qui fait que je suis toujours un peu dans les extrêmes, très heureuse ou très triste. Et en fait, pour moi, tout le monde était comme ça. Et je ne me rendais pas compte que pas du tout. Les gens ne prenaient pas autant à cœur ce que moi, je prenais à cœur. Et que du coup, ils ne pouvaient pas non plus comprendre ce que moi, je ressentais dans ces moments-là. Et c'est tout le travail que j'ai fait après de me dire, mais en fait, ils ne se rendaient pas compte non plus du mal qu'ils te faisaient parce que tu laissais rien paraître.
Donc, ça a commencé à 8 ans à peu près et ça a continué jusque... Enfin, en tout cas, de 8 ans jusqu'à la période collège. Ouais. Est-ce que dans cette période-là, t'as osé en parler à quelqu'un?
Non.
Est-ce que... Ah, t'en parlais pas du
jamais.
Tout? Ni à ta famille, ni à l'infirmière? Parce que tu disais que t'allais tous les midis chez
l'infirmière. Tous les midis, je disais que j'avais mal au ventre. Mais je disais que j'avais mal au ventre en mode, tu vois, je voulais rentrer chez moi, quoi. Mmh. Et je me rappelle que je voulais rentrer chez moi pour lire Harry Potter. Parce que c'était le... Enfin, Harry Potter, tu sais, je pense que ça a aidé beaucoup de gens aussi dans mon cas, parce que c'est un garçon qui est mal aimé, qui est un peu rejeté, etc. Ouais. Et par contre, non, j'avais tellement honte, en fait, que tous les soirs, je me rappelle que je pleurais dans mon lit, je priais, et je voulais seulement une amie. Je priais pour avoir
juste une
amie.
Parce que tu n'avais pas d'amis au collège, il n'y a personne qui était avec toi, donc tu étais un peu dans ce qu'on imagine du cliché de... Celle qui mange toute seule à la cantine, machin.
Et je mangeais même pas, du coup, parce que j'avais trop honte d'aller toute seule.
Et, ouais.
Et dès que j'allais à la cantine, on me disait « Mais regarde tout ce qu'elle mange, mais regarde tout ce qu'elle a dans son assiette. » Et du coup, en fait, ça s'arrêtait jamais, quoi.
Mais je me demande quand même, parce que... Enfin, tu rentres à la maison, t'étais pas bien, tes parents ne voyaient pas ça?
Non.
Ou parce que juste t'arrivais à bien le cacher, ou
je
c'est juste que
j'étais
tes parents...
très forte. Et puis, en plus, on est 5 enfants, donc tu vois, il n'y avait pas que moi sur laquelle se concentrer. Et
t'avais une chambre à toi toute seule?
Ouais, ça j'ai beaucoup de chance, j'avais ma chambre. Et je pense qu'il se rendait... En fait, je pense que ma mère voyait que quelque chose n'allait pas très bien, mais elle se disait, c'est l'adolescence, c'est le questionnement. Et il y avait même une amie, enfin la maman d'une fille que je voyais au collège, qui un jour avait appelé ma mère pour la prévenir de ce qui se passait, parce que ça devenait vraiment trop grave. Et ma mère, elle m'a convoquée, elle m'a dit « Est-ce que c'est vrai ?» Je lui disais « Non, c'est faux. »
Parce que t'avais honte.
Parce que j'avais beaucoup trop honte et que je me disais « S'ils le savent, mais ils vont se dire mais pourquoi on a une fille pareille, en fait ? Pourquoi on a accouché d'une... Pourquoi j'ai accouché d'une fille qui n'est même pas capable d'aller bien en société, entre guillemets, quoi ?»
Donc, enfin, ce que je trouve hyper difficile, c'est que, en fait, on te pointe du doigt en disant que t'as un boulet. Allez, je grossis le trait. Sauf que, du coup, à un moment, bah, t'as la sensation d'être un boulet, vu qu'on n'arrête pas de te le dire. Et c'est donc, tu veux pas être un boulet pour ta famille. Donc, tu te tais et tu dis rien. Et juste, tu rentres chez toi et tu pleures. Et tous les matins, t'as la boule au ventre pour aller à l'école.
Ah ouais, c'était un enfer. Je me rappelle, mon père me déposait très tôt, en plus. C'était vraiment, ça devenait physique, quoi. J'avais des douleurs, mais c'était. Parce que je savais qu'il allait se passer des choses encore dans la journée, que j'allais devoir encore encaisser.
C'était les mêmes personnes à chaque fois qui venaient s'acharner.
Ah, c'était le même groupe de personnes, dont une qui s'appelle Louise. Et ce prénom, je crois qu'il restera...
Maintenant, tu le supportes plus.
Mais il restera dans ma tête à tout jamais, quoi. Le Louise, et c'est celle qui a été, je pense, la plus virulente. Et puis après, j'ai subi un harcèlement venant de toute ma ville, de tous les jeunes de ma ville.
Alors, c'est quoi cette histoire?
J'avais trouvé une amie en troisième.
Et, toujours dans le même collège?
Ouais, mais qu'elle m'utilisait parce que j'avais une cousine qui était très populaire. Mmh. Je pense qu'elle m'utilisait pour se rapprocher de son groupe d'amis à elle et tout. On était devenus un trio et la troisième a raconté des mensonges sur moi en disant que j'avais raconté à tout le monde... qu'un mec, une nana qui fait récupérer les mouchoirs sales, enfin une histoire, mais complètement délirante.
D'accord.
Et en fait, tout le monde m'a tourné le dos du jour au lendemain. C'était des insultes. Je n'osais même pas sortir de chez moi, tellement j'avais peur, tellement j'étais angoissée. Ils m'avaient balancé mes affaires par-dessus, puisque j'avais dormi chez la fille quelques temps auparavant. Elle m'avait balancé mes affaires par-dessus la grille du jardin. Et j'en arrivais à un point où j'avais même pas peur pour moi, j'avais peur pour ma famille, en fait. J'avais peur pour mon petit frère. Et tous les soirs, je pleurais en me disant, je prie que mon petit frère ne subisse pas ce que j'ai vécu. Moi, je suis prête à subir ça encore, mais je ferai tout pour que lui ne subisse pas.
T'avais peur des répercussions ?
Ouais. Et j'avais peur que lui subisse la même chose et qu'il n'ait pas la force de supporter ça, quoi.
Oui.
Parce que je pense que même à mon jeune âge, je me rendais compte que j'avais quand même les épaules, quoi, que je portais quand même quelque chose de difficile.
Ah bah ouais, très clairement. Enfin, c'est quand même, ça n'arrive pas à n'importe... Enfin, c'est pas que ça n'arrive pas à n'importe qui, mais c'est que ce que tu racontes là... On est beaucoup à avoir subi du harcèlement et des violences à l'école. Moi, j'en ai vachement vécu sur mon poids et tout. Mais là, je trouve que c'est très, 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 très violent, en fait, tout ce que tu racontes. Et quand tu dis que toute ta ville, c'est quoi cette histoire?
En fait, c'est les jeunes que je fréquentais, parce que je faisais partie de l'aumônerie.
D'accord.
Et du coup, j'avais rencontré un groupe de potes. Et en fait, à partir du moment où la fille m'a mise de côté, tous les autres m'ont mis de côté, en fait. Et j'étais devenue...
Sans aucune raison.
Et je suis sortie, il y a quelques temps, avec un de mes anciens harceleurs. Pire erreur au monde. Mais parce que pour moi, c'était genre le garçon de ma ville, nanana. Et quand il est revenu vers moi, donc après toute une période, Je me suis dit, waouh.
À quel âge, là?
C'était il y a 2 ans, 3 ans.
D'accord.
Et je me suis dit, waouh. Et je me suis rendu compte que j'avais toujours cette mentalité de gamine de je suis la petite grosse qui va pouvoir sortir avec le mec que toutes les nanas voulaient. Et ça, c'est quelque chose d'où il faut faire très attention. Moi, je pense qu'il ne faut pas reprendre contact avec les gens qui vous ont harcelé. Maintenant, je me rends compte que ça a été une grosse erreur que j'ai faite parce que ça a ravivé des choses extrêmement douloureuses.
C'est ce que j'allais te demander, ouais.
C'est ça. Et la personne ne s'est jamais excusée, m'a quittée comme une merde un mois et demi après et m'a complètement détruite encore plus, quoi.
Est-ce que pendant que t'étais avec lui, t'essayais de lui en parler, de lui dire...
C'est lui, à la base, qui est venu m'en parler et qui m'a dit que ça avait été injuste. Et c'est lui, en fait, qui m'a raconté que ça avait été injuste parce que moi, je l'ai jamais su, en fait, toute cette histoire. Je pensais que c'était moi la coupable.
Attends, j'ai pas suivi là, j'ai pas compris.
Bah, tu sais, il y a quelqu'un qui avait inventé des rumeurs.
Ouais.
Et en fait, il pensait que c'était vraiment...
D'accord.
La personne avait laissé courir que ces rumeurs venaient de moi. Et en fait, moi, je n'ai jamais su qu'il y avait une nana qui avait ramassé des mouchoirs sales
d'un
mec.
Ah, c'était ça, ok.
C'est
ouais.
ça.
Okay.
Et qu'elle était folle amoureuse et que machin. Et du coup, les filles m'ont dit « Ah, mais t'as changé, donc on veut plus te parler. » Et d'un coup, j'ai été rayée. Ça mettait des messages sur les murs Facebook pour m'insulter, pour me traiter de montagne, pour me dire « Ah, mais regarde,
elle est... »
Ouais, il m'appelait la montagne.
Ça veut dire quoi?
Bah, parce que j'étais grosse, donc
il
m'appelait la montagne.
Bah,
non, mais même moi, j'ai mis du temps à trouver le rapport.
Ouais, ouais, ouais. Moi, c'était
moi, j'étais là à montagne parce que je suis forte comme un roc.
Bah, ouais.
Mais non, pas du tout.
Okay.
Et j'ai eu ça, je l'ai découvert et je passais des nuits entières à pleurer en regardant les messages sur les murs parce que, et c'est là où je me dis que j'ai eu de la chance au collège de ne pas avoir accès à Internet à ce moment-là.
Ouais. Parce que là, t'étais au lycée, du coup.
Ouais, c'était au lycée.
T'avais quel âge, là?
J'avais 16 ans, 16-17 ans.
Donc,
je pense.
Ok.
15-16 ans, ouais, au lycée.
Ouais. Donc, en fait, on t'a jamais foutu la paix.
Jamais. Jamais. Même
avec
là,
ton corps.
J'ai quitté mes études de journaliste l'an dernier. J'avais repris un master et je suis partie. Parce que ça allait pas bien, quoi. Parce que je m'entendais pas avec les élèves, parce que je souffrais d'un stress post-traumatique. Et c'est vrai que moi, depuis l'enfant, je suis hypersensible et j'ai une très forte sensibilité à l'image, au son. Enfin, pas à l'image, mais au son. En fin de journée, je suis littéralement épuisée, quoi. Parce que j'entends toutes les conversations,
d'infos.
C'est ça. Et en fait, du coup, à l'école, ils savaient que j'avais un stress post-traumatique, donc à cause de violences sexuelles que j'avais subies. Et en fait, le truc, c'est que on me faisait clairement comprendre. Un de mes profs, il m'a dit, mais vous êtes ici alors que vous avez un stress post-traumatique. En mode, qu'est-ce que tu fais là,
ouais,
meuf?
Qu'est-ce que tu fous là? T'as rien à faire là.
C'est ça.
Ouais.
Et là, depuis ce jour-là, en fait, j'arrivais même plus à aller à l'école. Quoi. Je tremblais de toutes mes forces. Enfin, c'était.
En fait, j'ai l'impression. Enfin, tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que dans ce que tu racontes, que t'étais jamais au bon endroit. En fait.
Jamais.
Que quoi que tu fasses ou comment tu t'habilles ou comment tu te comportes ou que tu parles, ça n'allait jamais.
C'est
en
ça.
Fait.
C'est ça. Et c'est même ce que je ressentais auprès de mes amis, qui avaient toujours des réflexions à me faire. J'ai perdu tous mes amis, là, depuis... en l'espace d'un an, un an et demi, tout le monde m'a tourné le dos quand j'ai
au collège.
Enfin... Non, là, cette
là,
année,
récemment.
Quand j'ai enfin commencé à parler de santé mentale et de ce que je vivais, en fait, de ce que je traversais, et t'as l'impression que c'est un sujet qui fait peur aux gens. Ce que je peux comprendre que ce soit pas facile d'entendre que quelqu'un fait une grosse dépression, que quelqu'un ne va pas bien... Mais en fait, je me dis, je serais morte, j'aurais fait une tentative de suicide parce que vraiment, j'en étais arrivée à un point où ça devenait très, très grave. S'ils étaient venus à mon enterrement, j'aurais été là, mais alors, foutage de gueule fois mille,
ouais,
quoi.
Ouais.
Parce que vous n'avez pas pris une seule fois de mes nouvelles, pas une seule fois, il y en a un qui m'a demandé si j'allais bien. Vous m'avez tous laissée toute seule. Heureusement que j'ai ma famille et mes parents qui, eux, m'ont énormément aidée.
Justement, j'allais te poser la question, est-ce qu'avec le temps, tes parents, t'as parlé du harcèlement, t'as parlé de tout ça, et ils ont été un peu... Est-ce que tu en as parlé? Est-ce qu'ils ont été à l'écoute?
On a commencé à en parler après les violences sexuelles que j'ai subies.
D'accord.
Où j'ai plongé dans l'anorexie, mais très grave. Je suis descendue à 48 kilos.
D'accord.
Pour 1m74.
Ouais.
Je tenais clairement plus debout. Je me levais, je m'effondrais. J'arrivais plus à rien manger. Dès que je mangeais, je vomissais. Et c'est là où mes parents se sont dit « Ok, en fait, là, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un problème. » Et ma mère m'a sauvé la vie en m'emmenant dans un centre que je recommande à toutes les personnes qui sont atteintes de troubles du comportement alimentaire. C'est SOS Anor.
Okay.
Et en fait, c'est des centres qui, eux, ne sont contre l'hospitalisation et qui, par contre, vont essayer vraiment... Déjà, les premières séances, ils t'écoutent, ils sont à l'écoute, ils écoutent ce que t'as à dire.
C'est où, ce centre?
Saint-Germain-des-Prés, celui où je consulte. Et t'as un diététicien, t'as psychiatre, t'as psychologue, c'est hyper complet. Et moi, ils m'ont clairement sauvé la vie. Je pense que sans eux, je ne serais plus là à l'heure actuelle. J'en suis même convaincue, quoi.
T'as été dans ce centre à partir de quand?
Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans ma vie. Après ma rupture avec la personne que j'ai fréquentée, qui m'a infligé des violences sexuelles, des violences psychologiques, qui m'a complètement...
Qui était ton harceleur de quand tu
étais... Non, ça c'est un autre encore, okay. Sinon ça ne serait pas drôle.
Mais tu peux nous en parler un petit peu de ça?
Bien sûr. En fait, j'ai rencontré un garçon quand j'ai commencé mon anorexie. Donc, j'étais déjà très fragile.
T'avais quel âge ?
J'avais 21 ans. J'avais jamais fréquenté de garçon. J'avais jamais côtoyé aucun garçon. J'avais fait ma première fois en vacances. Donc, j'avais une petite expérience sexuelle. Et en fait, ce garçon s'est rencontré sur Tinder.
Okay.
Et alors qu'à la base, j'avais pas très envie d'aller sur ce réseau, mais je me suis laissée tenter. Les premiers rendez-vous se sont hyper bien passés. Enfin, dans ma tête, parce que je me suis rendu compte après coup qu'en fait, il y avait déjà des choses... Et cette relation a duré 9 mois, mais 9 mois où en fait il me droguait, il me faisait prendre de la cocaïne.
Ah ouais.
Je me réveillais le matin, j'avais des bleus partout, des bleus qui faisaient tout le bras, tout mon bras. J'avais une dizaine de bleus sur les jambes. Je ne comprenais absolument pas ce qui se passait. Et en fait, j'étais tellement en emprise avec lui que j'avais l'impression que c'était de l'amour. Je pouvais lui envoyer 40 messages par jour. Le mec faisait exprès de ne pas me répondre pendant 2 jours. Et ensuite, il me disait « mais t'es folle, mais t'es machin ». Et j'ai découvert par la suite qu'en fait, il avait une copine depuis le début. Donc, il menait 2 relations en parallèle. Et moi, il me disait que si je prenais du poids, il me quitterait. Alors qu'il savait ce dont je souffrais. Il savait que je vivais de l'anorexie. Il m'a progressivement éloignée de ma famille, éloignée de mes proches. Enfin, le parcours typique du mec manipulateur, pervers et qui m'a fait faire des choses sexuellement. Je pense qu'il y a des choses dont je ne me rappelle même pas parce que mon cerveau a complètement...
occulté.
Voilà, je me suis rendu compte de tout ça 1 an après quand j'ai commencé à me réveiller en pleurs avec des flashbacks.
Wow.
Et en fait, j'avais 0 souvenir de presque toute cette relation, quoi.
Mais alors, ça veut dire que pendant 9 mois, donc t'as 21 ans.
Ouais. J'habitais à Lille et lui habitait Paris.
D'accord. Donc tu venais chez lui ou lui venait chez toi?
En fait, on se voyait que chez lui.
D'accord.
Que chez lui, quoi. Que chez lui le soir. Ouais, tous les week-ends, vu que ma famille était là, tous les week-ends, je faisais des allers-retours.
Et donc, tu rencontres ce mec sur Tinder, tu crois que ça se passe bien, et au final, donc, quand tu dis il me drogue, il me prend de la... Enfin,
il m'obligeait à la prendre, mais tu vois, la cocaïne, le problème, c'est que moi, déjà, j'ai un terrain qui est hyper favorable aux addictions, et ça, je le sais. Au fur et à mesure, tu vois, il m'en faisait prendre un peu, puis de plus en plus. Un soir, il m'a fait prendre 8 paras de MDMA.
Je sais pas du tout ce que ça...
Je n'avais jamais pris. Moi, la MDMA, je connais pas du tout. C'est une drogue qui est très, très forte.
Oui, oui.
Et en fait, je crois que les effets, c'est tu ressens de l'amour.
C'est
et
ça, je
voilà.
crois. Ouais.
Et moi, je n'en avais jamais pris parce que je touche pas à ce genre de choses. Et en fait, il m'en a fait prendre 8 paras. Normalement, c'est 1 para par soirée. Ben ouais, c'est des paras, ça okay. parachute. Enfin, c'est les petits...
Ah oui, d'accord, oui, des parachutes.
C'est ça, ouais.
Ouais.
Et il m'en a fait prendre 8. Et je pense que je suis passée proche de la mort, sachant que je ne contrôlais plus mon corps. Lui s'est endormi tranquille, détente, posé à côté. Le lendemain, il m'a viré de chez lui à 9h du mat, tu vois, en me disant, faut que tu y ailles maintenant. Alors que ça n'allait pas du tout.
Quand tu dis, il m'a fait prendre 8 doses de MDMA, est-ce qu'il te forçait ou alors...
Il me disait, t'inquiète, je connais, t'inquiète, tu peux prendre. Et tu sais, vu que moi, je ne connaissais pas...
Oui, tu faisais confiance.
Voilà,
amoureuse,
je me disais, c'est mon mec, donc il ne va pas me mettre en
bien,
danger,
quoi.
En fait. Et puis pareil, j'ai fini à l'hôpital à cause de lui, avec une pilonéphrite... Hard.
Oui, j'ai vécu ça.
Ouais, voilà. Et ça a été l'enfer, parce que j'étais en pleine Bretagne, le soir de l'anniversaire de ma mère. À 23h, ils doivent m'emmener aux urgences. Et en fait, il m'explique que c'est à cause de Romain, c'est son prénom. Hein.
Ouais.
Et j'ai pas honte de le dire. Et en fait, parce que pendant une relation sexuelle, il est allé derrière, puis il est revenu devant. Et tu vois, du coup, moi, je connaissais rien à tout ça.
Ouais.
Le mec n'en avait rien à battre que je sois aux urgences, que j'ai failli perdre un rein quand même à cause de tout ça, quoi. Et je me suis pas rendu compte sur le coup. J'aurais dû me dire, mais ça va pas, il y a un problème quand même que cette personne...
Mais tu te sentais peut-être sous l'emprise de ce mec-là, vu que t'étais amoureuse, que c'était
en fait,
ta première...
En fait, je me disais, quelle chance d'avoir trouvé quelqu'un qui m'aime.
Mais c'est ça.
Et
qui m'accepte comme je suis.
Voilà.
Ouais.
Quelle chance d'avoir trouvé quelqu'un qui m'aime. On ne m'a jamais aimée. Et lui m'aime. Et lui m'a dit un jour, non mais Sidonie, t'as vu comment t'es, personne pourra jamais t'aimer.
Yes. allez, comment tu veux te...
Bim ouais. Et là, après, ça a été... là, c'est que depuis là, on va dire 6 mois, que je commençais à aller mieux. Ouais. Avant, pendant 2 ans, je n'ai pas réussi à sortir de chez moi. Mmh. J'avais des crises d'anxiété qui démarraient dès le matin, mais je ne pouvais même pas... J'étais allongée au sol, et dans ma chambre.
Mais ces crises... Alors, attends, juste, je voulais revenir sur...
J'ai un peu le cerveau qui part de tous les côtés, tout le temps.
Il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Juste quand tu parles de ce mec où tu dis que tu t'es réveillée le matin avec des bleus, etc.
Ça... Ouais.
Enfin, est-ce que tu as réussi maintenant avec le recul à savoir ce qui s'est passé? Est-ce qu'il t'a battu? Est-ce que tu as des souvenirs?
Je pense qu'on avait des relations sexuelles tellement violentes que mon corps ne supportait plus, en fait. Mm. Parce que lui me faisait faire des choses que moi, je... c'était pas en mode il me forçait, mais en fait c'était
tout comme
parce que je me sentais un peu prise au piège, ouais. Et à chaque fois il était là, allez reprends une trace de drogue, et du coup forcément je me désinhibais, quoi. Et
il avait quel âge, ce mec?
Il avait 28 ans quand je l'ai rencontré, moi j'en avais 21. Et d'accord. En fait, je pense qu'il aurait pu réussir à me faire faire des choses, genre du porno, etc. Je pense qu'il aurait pu. Il aurait réussi à me faire faire des choses, mmh. Tellement j'étais...
Il avait ce pouvoir
Pour moi, c'était un dieu, quoi. C'était Romain, quoi.
Ouais.
Personne n'avait le droit de le critiquer. Et je me rappelle qu'un week-end, je suis rentrée de chez lui après 3 jours chez lui. Et ma mère m'a vue sortir de la voiture tellement maigre que même elle a eu peur. Elle m'a dit, on part aux urgences, Sidonie, c'est pas possible. Ouais. C'est stop. Et j'ai réussi à parler avec elle. Et c'est là où mes parents ont commencé à ouvrir les yeux et à se rendre compte que quelque chose n'allait pas et que ça devenait vraiment très grave, en fait.
Podcast.
Quand tu parlais tout à l'heure que t'as subi des violences sexuelles, est-ce que tu peux nous parler de ça un petit peu ou c'est un peu...
C'est surtout dans le sens, il me forçait à faire des choses où j'avais très très mal, où j'étais pas à l'aise.
Mmh.
Et en fait, je me suis rendu compte que pour
mais
moi...
Mais tu parles de Romain, là, pas d'autres personnes.
Et pareil, j'ai subi aussi des viols avant de mecs. Où en fait, moi, la notion du consentement, tu vois, je l'ai découverte super tard. J'avais l'impression que si j'embrassais un mec, j'étais obligée d'aller au bout. Parce que je me disais, tu lui as donné une impression d'eux.
Ouais.
Donc, si en fait, tu vas pas jusqu'au bout, c'est que t'es une salope, quoi. Ça veut dire que tu chauffes la personne et que t'es même pas foutu d'aller jusqu'au bout. Voilà. Mmh. Et en plus, j'avais une ancienne meilleure amie à l'époque qui m'a complètement détruite, qui m'a menti sur une multitude de sujets, etc. Et avec qui j'ai coupé les ponts du reste parce que je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Et qui, elle, en gros, me disait clairement, c'est ton mec, de toute façon, il n'a pas pu te violer, c'est faux, c'est du mytho. Oui. Et la nana racontait mes histoires à tous ses potes et à tout le monde. Donc, dès que j'arrive en soirée, les gens étaient là, « Ah, c'est toi qui t'es fait violer par ton ex et qui souffre d'anorexie ?»
Putain.
Et moi, j'étais là genre...
« Bonjour. »
Pardon.
Ouais.
Et elle me disait, « Non, mais c'est parce que je me suis dit que ça pouvait les aider, eux. » ouais, mais en fait, c'est ta vie, meuf, on est où, là?
Mmh.
Et tu vois, c'est là où aussi, moi, ça a été un travail hyper compliqué, que je commence enfin à me dire, je suis une vraie personne, j'ai le droit de vivre pour moi et non pour les autres.
Ce qui est compliqué, je trouve, et pourtant, je suis pas psy, tout ça, mais que j'ai la sensation que depuis que t'as 8 ans, en fait, on te fait chier, mais on te fait chier, c'est peut-être très léger comme terme, mais tu subis des moqueries, de l'harcèlement, on te fait chier avec ton poids, tu subis des viols, ce mec avec qui tu sors mais qui est ton harceleur, et puis après tu rencontres ce mec avec qui tu vis des expériences qui sont éloignées, très très à l'opposé de ce que tu es. En fait, je pense que c'est difficile, honnêtement. Et puis en plus de ça, tu viens d'une famille nombreuse où tu parles pas à tes parents parce que tu veux pas leur faire honte.
Je voulais pas leur faire de la peine aussi après. C'était aussi le fait de, tu vois, les protéger. En même temps que j'avais honte, je voulais aussi les protéger et qu'ils s'inquiètent pas pour moi parce que j'avais pas envie qu'ils s'inquiètent.
Mmh. Mais pourquoi t'avais pas envie qu'ils s'inquiètent? Parce qu'en même temps, il y avait toi.
Parce que j'avais déjà, dans ma famille, il y avait déjà, j'avais un frère qui était un petit peu plus difficile niveau comportement.
Ah oui, et tu voulais pas rajouter de la charge à tes parents.
C'était ça, en fait. C'était plutôt... moi, j'étais la fille où il n'y avait pas de problème, donc je devais rester dans ce rôle-là. Parce que
tu endossais ce rôle-là.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est, honnêtement, moi, je trouve ça... Là, c'est un point de vue très extérieur, mais dans tout ce que tu me racontes, je trouve que c'est presque normal, en fait, qu'il y ait eu un moment où t'as eu un burn-out, moments... parce que depuis que t'es gamine... Ce que je trouve très difficile, c'est que... C'est ce qu'on se disait en off, je crois, c'est que quand on est enfant, évidemment, il y a souvent les camarades de classe qui vont venir, pas nous insulter, mais nous dire qu'on a un bébé cadôme ou que machin, etc. Ça, tu vois, comme tu le disais en off, ça commence dès ce moment-là.
C'est ça.
Et que... toi, avant même de te découvrir, avant même de découvrir ton adolescence, ta vie, ton corps de femme, de tout ça, en fait, on vient de te pointer du doigt ce que les autres pensent de toi, au lieu de... Enfin, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, mais que tu n'as même pas eu le temps, en fait, de te découvrir.
Je n'ai même pas eu le temps de me trouver, en fait.
Tu n'as pas eu le temps,
c'est
en fait.
Ça.
C'est que les
autres ont fait... Je ne savais absolument pas qui j'étais avant le Covid. Pour moi, ça a été le premier confinement. Ça a été hyper dur, mais en même temps, pour moi, ça a été sauveur.
Parce que salvateur,
je me suis
parce
pris dans la gueule
ouais.
tout ce que j'avais caché. J'ai passé des nuits à pleurer. Et en même temps, je sortais énormément aussi avant, donc je consommais beaucoup. Parce que
consommais
j'avais
beaucoup de
quoi ? De drogue.
D'accord.
Cocaïne. Okay. Juste que de la cocaïne, mais parce que j'avais ce besoin, en fait, de sortir de moi-même.
Ouais, bah c'est souvent ça.
Et hein. je me suis rendu compte que je faisais aussi beaucoup de dissociation depuis l'enfance. Donc en fait, j'avais... j'avais des moments où quand il y a des trucs qui me déclenchaient quelque chose et en fait je sors de mon corps et ouais. c'est comme si j'étais un robot en fait et après je ne me rappelle absolument de rien. Il y a des moments comme ça de mes journées où par exemple il y a 2 heures de ma journée je serais incapable de te dire ce que j'ai fait, ce que j'ai mangé ou qui j'ai vu quoi. J'en ai aucune idée.
Parce que tu prenais de la drogue ?
Non, parce que ça c'est un mécanisme de défense qui s'est mis en place depuis l'enfance de dissociation. Parce qu'avec ma psy aussi, parce que je suis suivie forcément depuis 10 ans, on se demande si je n'ai pas subi des attouchements enfant.
Ah ouais.
Et si je n'ai pas subi quelque chose enfant qui fait que j'ai toujours eu cette image hyper néfaste de moi et que j'ai toujours eu un peu une autodestruction envers moi-même, en fait.
Et tu n'as pas eu des flashs de cette période-là ?
Non.
Je te demande ça parce que j'ai une amie qui elle travaille sur elle depuis des années. Et maintenant, à 33 ans, elle a des flashs de son enfance. Tu vois, de trucs qu'elle a subis. Toi, t'as pas eu ça parce que tu me disais que t'as
pas
déjà
encore,
eu des flashs.
Pas encore, mais j'ai un peu peur aussi que ça arrive.
Bah, je
parce
comprends.
Que d'un côté, je me dis ça sera bien parce qu'au moins, ça y est, je pourrais vraiment travailler dessus.
Ouais.
Mais d'un autre côté, est-ce que j'ai vraiment envie de savoir ce qui s'est passé, sachant déjà tout ce que je dois. Tout ce que je dois vivre déjà en moi, tout ce que j'ai déjà en moi comme combat à mener,
comme bagage,
entre guillemets.
Ouais. Ouais.
Il y a un an encore, j'aurais été incapable de venir témoigner ni rien, parce que j'étais tellement... Je pense que je m'étais aussi enfermée dans un cercle d'amis où je me sentais pas du tout à ma place, où je me sentais pas du tout bien. Mais vu que c'est des gens qui paraissaient très bien, qui avaient une vie saine, je me disais, ah bah si je traîne avec eux, ça veut dire que bah, moi aussi je vais pouvoir avoir la vie saine. Et en fait, ils étaient toujours dans un dénigrement envers moi, tu vois, en train de... J'avais toujours l'impression d'être une sous-merde, en fait, à côté. Clairement, j'avais l'impression que pour eux... J'étais un peu un poids.
Mais est-ce que tu essayais de leur plaire ou pas ?
Bah en fait, je pense que ouais, j'ai toujours eu cette... je pense que depuis l'enfant, j'essayais toujours de m'adapter à la personne en face parce que j'ai envie que les gens m'aiment. Sauf que c'est super mauvais parce qu'au final, les gens ne peuvent pas t'aimer pour ce que tu n'es pas. Au bout d'un moment, ça finit par ressortir. Et depuis que cette année, je m'affirme et que je commence enfin à dire « ça, j'aime bien, ça, j'aime pas ». Par exemple, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que mon fruit préféré, c'était la mangue.
Ouais.
J'en avais aucune idée avant, tu vois. Je m'étais jamais...
Tellement t'es éloignée de ce que tu...
Tellement, ouais. ouais. En fait, j'avais l'impression depuis l'enfance que mon esprit était... Enfin, que j'étais là dans ma tête, mais que tout ce corps, c'était pas
déconnecté.
Moi.
Ouais,
c'était pas mon corps que j'avais... En fait, j'avais cette impression qu'on m'avait prêté un corps, mais que c'était pas le mien, quoi.
Bah, en même temps, ça se comprend, vu qu'on n'arrête pas de te dire depuis gamine que, bah, que t'es grosse, que t'es fesse, que t'es machin. Enfin, comment tu veux te connecter à ce que t'es ? Moi, ça me parle un peu parce que j'ai vécu ça quand j'étais plus jeune. Enfin, je le vis encore maintenant différemment, mais j'ai vécu ça dès l'école primaire jusqu'en, je sais pas, quatrième, troisième. Enfin, j'ai toujours vécu des trucs où on me pointait du doigt sur mon poids. Beaucoup. Et puis des trucs hyper violents comme toi, de la grosse vache. Tu trouveras jamais personne parce que t'es grosse. Ça, c'était mon frère qui me le disait. Donc, tu vois, c'est des trucs qui sont très difficiles à entendre. Et forcément, donc c'est pour ça où je suis un peu en lien avec ce que tu racontes, parce que à la fois, t'essayes de trouver l'approbation de l'autre, de trouver l'amour de l'autre dans le regard. T'es pas naturel, mais tu veux plaire aux autres. En même temps, t'arrives pas à te connecter à toi. Tu vas être plus mince parce que tu crois que c'est comme ça, parce que c'est la réussite, en fait.
C'est ça, exactement.
Je pense que t'as peut-être pensé comme ça. Moi, je l'ai beaucoup pensé. Hein,
ah
que
ouais,
être mince, c'est avoir réussi dans sa vie. Ou être mince, c'était être belle. Tu vois,
c'est
je pouvais
ça.
Pas
ouais,
imaginer
ouais.
que tu peux être grosse et belle. Donc, je comprends très bien que ça puisse être difficile. Et puis, de vivre un harcèlement comme ça, dès la naissance, non, mais en tout cas, dès la jeune enfance, c'est pas évident. Et je voulais justement un peu revenir sur le harcèlement parce que ça viendrait de plusieurs facteurs.
Ouais.
Tout dépend. Enfin, il y a plein de types de harcèlement différents. Il y a le contexte familial et l'entourage. Il y a l'agression verbale, physique, punition corporelle, etc. Il y a l'expérience. Par exemple, au contact d'enfants intimidants, que ce soit au parc, avec des voisins, des cousins, dans un autre contexte, que ce soit à l'école ou avec ses frères et sœurs. Et ça peut être des facteurs extérieurs, comme un accès libre à des films ou à des jeux vidéo qui glorifient un peu les comportements violents. Et souvent, les enfants, bon, ça, c'est un peu une généralité, mais souvent, les enfants, ils vont chercher à imiter et à expérimenter ces comportements. Est-ce que ça te parle, ce que je viens de dire? Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Est-ce que tu te reconnais un peu là-dedans?
Ouais, complètement, parce que c'est vrai que c'est ce que j'essaye de faire avec mes neveux et nièces, tu vois, de leur inculquer le fait de ne jamais se moquer d'autrui parce que t'aimerais pas qu'on se moque de toi. Et je le vois quand ils sont chez moi et tout, t'as toujours ce truc de reproduire ce que t'as vu,
mais
ce que t'as entendu.
Reproduire le schéma, bien sûr.
Et c'est toujours de la reproduction.
Ouais.
Et je me dis, c'est fou quand même qu'en 2022, on n'arrive pas encore à au moins un petit peu minimiser ce problème. Pas le minimiser dans le sens minimiser les faits.
J'ai compris.
Mais qu'on arrive un peu à réduire. Enfin, je me dis, j'ai l'impression que l'harcèlement est grandissant, tu vois.
Mais tu sais, tu me dis ce que t'en penses. Mais moi, je trouve quand même que l'harcèlement ou l'intimidation, c'est souvent, en fait, pour venir se flatter soi, en fait.
Ah, mais complètement.
Tu vois, c'est ça. Moi, je sais qu'à l'école, enfin, au collège, c'est pas que ça. Mais au collège, moi, quand il y avait des mecs et des nanas un peu populaires qui me traitaient de Moby Dick, de grosse vache et tout, c'est parce que eux-mêmes, mais ça, je m'en suis rendu compte maintenant à 34, enfin, il y a un petit temps quand même, mais je me suis rendu compte que c'est parce que eux, ils voulaient venir se flatter en disant, ouais, vous avez vu, moi, je peux insulter, on me fait rien et je suis un peu populaire où il y a les meufs à côté. Enfin, tu vois, c'est une manière un peu de se rassurer soi. Et aussi, moi, j'ai vécu des trucs quand j'étais au collège et à l'école primaire avec des professeurs qui m'ont insulté, tu vois, j'ai un prof de d'histoire, je crois, je sais plus, qui m'a insulté de bovin et je savais pas ce que ça voulait dire à l'époque. Et à l'école primaire, j'avais des chewing-gums et je voulais pas en donner. J'avais des malabars, tu vois, et je voulais pas les donner à mes copains-copines. Et j'ai une prof qui m'a dit, mais donne-en, t'es suffisamment grosse et tout. Donc là, tu vois, je pense que c'est pas venir pour se
rassurer.
C'est très violent.
Ah ouais.
Mais c'est pas pour venir se rassurer soi dans ces moments-là, mais c'est juste que il y a une manière où, tu vois, de venir insulter l'autre, c'est une solution de facilité énorme pour juste déverser un peu, je suis en colère, bah du coup, je vais venir t'insulter, tu vois.
Ouais.
Il y a ça. Et puis il y a aussi l'autre aspect qui est de venir se rassurer soi. Et je trouve que c'est quand même, comme tu le dis, en 2022, bah, peut-être qu'il serait temps un petit peu de calmer ça, tu vois, parce que c'est...
Ouais, ce qui me fait peur surtout, c'est avec Internet, tu vois, parce que je me dis, moi, ouais, l'harcèlement que j'ai vécu, je l'ai déjà eu un peu sur les skyblogs.
Justement, je voulais t'en parler. Est-ce que toi, t'as déjà vécu un petit peu du cyberharcèlement?
J'en ai eu un très, très compliqué. Déjà, je pense que ma classe, quand j'étais en école de journalisme, avait créé un compte où ils mettaient des photos dégueulasses, en gros, des gens, tu vois, des photos moches qui prenaient des gens dans la classe qu'ils aimaient pas.
D'accord.
Et moi, en école de journalisme, alors que je m'attendais pas du tout à retrouver du harcèlement là-bas, j'ai été harcelée hyper gravement par quelqu'un qui créait des comptes Instagram tous les jours pour m'insulter,
ouais,
qui m'envoyait des photos de moi en mettant « Regarde comme t'es laide, ce matin t'es arrivée, t'étais dégueulasse », qui était allé chercher les comptes de ma famille pour aller chercher des photos de ma famille. Et je pense que c'est quelqu'un qui connaissait quand même un peu ma vie parce qu'il m'attaquait sur des choses qui étaient très personnelles et la personne savait que ça allait complètement me briser. Et après, à l'époque, je fréquentais quelqu'un qui s'appelait Thomas. Et du reste, Thomas, ça a été un homme qui m'a énormément aidée dans ma reconstruction parce que je l'ai rencontré juste après Romain, donc celui
D'accord.
qui m'a infligé beaucoup de sévices. Et beaucoup d'hommes seraient partis à sa place parce que forcément, une femme qui a vécu des choses difficiles, bah, c'est pas facile de la fréquenter. Et lui, il m'a énormément aidée justement par rapport à cet harcèlement, à prendre du recul. Et il me disait, mais arrête de regarder ça. Parfois, je le réveillais à 5h30 du matin parce que je venais de recevoir des messages à 5h30 du matin.
Là, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, au
final.
C'était
il y a 4 ans.
Ouais, c'est
4
ça.
Ans, ouais. Et jusqu'au jour où j'ai fait semblant que j'allais porter plainte au commissariat, j'ai mis une photo que j'avais trouvée sur Internet en mettant « Attention, rira bien qui rira le dernier » ou un truc comme ça. Ça s'est arrêté.
D'accord, à partir de ce moment-là.
À partir du moment où j'ai fait genre que j'allais au commissariat, ça s'est arrêté.
Mais ça a duré combien de temps cette période?
Ça a duré un an.
Un an?
Un an, ouais. Un an intensif, quoi. Où vraiment, à la fin, tu sais que j'osais plus sortir de chez moi parce que j'avais peur, encore une fois. J'osais plus rien poster sur les réseaux parce que j'avais peur. Et je me disais, mais en fait, ça se trouve, la personne est vraiment dangereuse. La personne peut vraiment me faire du mal physiquement.
Tu parles de quelqu'un qui était dans l'école de journalisme?
Je pense. J'ai jamais su qui c'était.
T'as jamais su? Mais
jamais.
Pendant cette année, comment ce harcèlement il a évolué au fil du temps?
Et les profs s'en foutaient. J'en avais parlé à ma directrice, elle me disait « Ah, ça va, c'est pas bien grave. » Et je disais « Vous vous rendez compte quand même que si, c'est
toujours,
grave, en fait. »
Il diminuait toujours.
Et c'était toujours des remarques sur mon physique, en me disant « Parce que je pense que la personne savait que moi, c'est le physique. Pour moi, j'ai toujours détesté mon physique. Et même encore maintenant, j'ai énormément
j'allais
de mal. »
J'allais te poser la question de comment tu te sens dans ton corps
c'est
et comment tu te
très
trouves.
Compliqué. J'ai beaucoup de mal avec moi-même. J'ai beaucoup de mal avec... J'ai beaucoup de mal avec moi-même, en fait. Il y a des semaines entières où j'arrive pas à sortir de chez moi parce que je me sens mal. Ça va mieux depuis que j'ai repris un travail parce que du coup, je n'ai pas le choix. Mais pendant toute une période de ma vie, je me suis complètement négligée, tu vois. Je me maquillais plus du tout. Je m'habillais avec n'importe quoi parce que de toute manière, j'étais tellement fine que je m'en fichais, quoi. Mm-hmm. Et j'avais même une période, justement, pré-romain où je ne supportais pas même que mon père me regarde. Ça me dérangeait. Mmh. Je supportais pas que mon père me parle. Et ça a duré pendant presque un an. Je ne voulais pas qu'il me parle parce que c'était une figure homme. C'était un homme, tu vois. Et je ne supportais pas qu'on me touche. Je me mettais à hurler dès qu'on me touchait. Et même encore maintenant, je supporte pas qu'on touche mes jambes. C'est quelque chose de très compliqué pour
tes
moi.
Tes jambes?
Ouais, mes
pourquoi,
jambes.
Pourquoi tes jambes?
Je sais pas. Mais je sais que mes jambes, je ne supporte pas qu'on les touche. Depuis Romain, je sais pas, peut-être parce que c'est l'intimité qui est là et que c'est pour moi une barrière de mon intimité, tu vois. Je me suis dit peut-être que pour moi, c'est ce qui protège mon intimité ici. Mmh. Et du coup, peut-être que pour moi, c'est une manière de me protéger, mais même les relations sexuelles, c'est devenu compliqué pour moi. J'ai du mal parce que j'ai peur, parce que j'ai peur qu'on m'oblige à faire des choses, j'ai peur d'avoir mal. Et puis forcément, quand j'ai des relations sexuelles, t'as un petit vélo en tête qui te rappelle tout ce qui s'est passé auparavant. Et
t'arrives à avoir une sexualité avec toi-même ?
Avec moi-même, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. J'y arrive, mais beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Et c'est vraiment dans des périodes où d'un coup, je vais être très excitée, tu vois, en regardant un film ou autre chose. Et donc là, ça va venir naturellement. Par contre, avant, je suis quelqu'un qui n'a jamais eu vraiment de tabou sur la masturbation et tout. Et je le faisais une fois par semaine ou plus. À l'heure actuelle, c'est une fois tous les 2-3 mois, parce que j'y arrive plus. Parce que dans ma tête, j'essaye de travailler là-dessus, justement, sur la sexualité. Par exemple, mes derniers copains, une fois qu'on avait couché ensemble, je les quittais parce que j'arrivais plus.
T'arrivais plus à quoi ?
J'arrivais plus à les fréquenter. J'avais l'impression que ça y est, on avait couché ensemble.
Tu leur as donné ce qu'il fallait et toi, t'as pris ce qu'il fallait prendre.
J'avais l'impression que, qu'ils avaient... Pas du tout, mais en fait, ils avaient des réflexions qui étaient en mode, ça faisait un mois qu'on était ensemble, ils me disaient, ouais, j'ai même pas vu ton téton, quoi. Et moi, j'étais là, mais ça fait qu'un mois, enfin.
Ouais.
Et du coup, c'était pas que je me sentais forcée, mais je sais que moi, j'ai besoin d'énormément de temps maintenant pour faire confiance à un homme. Et j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, les hommes ne sont pas prêts à ça. Et en tout cas, moi, les hommes que j'ai rencontrés, je dis pas tous et je mets absolument pas tout le monde dans le même panier.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que moi, j'ai pas, en tout cas, pour l'instant, trouvé quelqu'un qui me donne envie de lui faire confiance. Ouais. Et puis souvent, ça finit en « Ah, mais de toute façon, elle est folle ouais. ». La phrase typique de « Ah, mais elle est folle ».
Et là, t'as quelqu'un en ce moment ou pas ?
Non.
Non.
Non, non, j'ai personne parce que je viens de recommencer mon travail, que c'est très important pour moi et que c'est, tu vois, à part là, aujourd'hui, le fait de réussir à venir à Paris, ça a déjà été pour moi une victoire parce que je l'aurais pas fait avant.
T'habites à Lille encore ?
Non, non, j'habite dans la banlieue parisienne, mais même le trajet en RER, je pouvais pas le faire avant. J'en étais incapable, tu vois. Je ne sortais pas de ma ville.
C'était quoi la réflexion qui te...
J'avais peur.
T'avais peur. C'était que de la peur qui prenait place.
Même aller au bout de ma rue, je n'y arrivais pas. Même aller au tabac qui est au bout de ma rue, j'y arrivais pas. Je restais bloquée toute la journée dans ma chambre à pleurer.
Enfin, en même temps, ça se comprend. Hein.
Et j'avais envie, tu sais, je me griffais jusqu'au sang, la peau. Et je prenais genre 10 douches dans la journée parce que j'avais ce besoin de me laver. J'avais l'impression d'être sale, en fait.
Ça, c'est quand t'habitais chez tes parents?
Ouais, je suis revenue chez mes parents parce que...
Mais ça, ils le voyaient pas.
Ils travaillaient. Et ça, c'était la période où déjà, ils le sentaient que... Enfin, on avait déjà commencé un travail de psychothérapie important. Et ça, c'est ma mère qui m'a obligée. Et je l'en remercie, mais alors...
Ça fait du bien. Ça m'a sauvé la vie.
Moi, je conseille à tout le monde d'aller voir un psy. C'est quelque chose d'hyper important. Même une séance, deux séances.
Mais déjà de faire le pas, quoi.
Voilà, faire le pas d'y aller et de pouvoir parler avec quelqu'un où la personne ne vous jugera pas. Après, il faut trouver le bon psy. Parce que ça, c'est très important aussi.
C'est important ce que tu dis, parce que moi, j'en parle souvent sur Twitch, notamment, parce qu'on aborde plein de sujets très différents. Et à chaque fois, quand les gens me posent des questions, je sais pas, ils me posent des questions sur leur vie. Souvent, je leur dis, allez travailler sur vous. Parce que moi, je sais que je fais ça depuis des années. J'ai vu plein de psys différents, parce que justement, comme tu dis, il faut trouver le bon thérapeute, le bon transfert, etc. Moi, je conseille ça à tout le monde, d'aller travailler sur soi sous plein de formes différentes. Hein. T'as de la psychanalyse, c'est comportementaliste, t'as plein de trucs différents. Et c'est pas juste pour les fous, faut arrêter de croire ça, vraiment.
C'est ça.
Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont fait les démarches pour, et certaines qui sont depuis maintenant 3, 4, 5 ans, d'autres qui ont fait que 2 mois. Mais en fait, à partir du moment où tu fais le pas pour, c'est déjà une immense victoire. Que moi, je sais que maintenant, moi, ma psy, là, je la vois une fois par semaine. Pendant un moment, je l'ai vue 2 fois. Et c'est vraiment... Et je le voyais pas comme ça il y a 10 ans, mais maintenant, c'est vraiment un temps que je prends pour moi, tu vois, pour comprendre des choses, pour me séparer de choses émotionnellement qui sont difficiles, tout ça. Donc, je pense que c'est un travail qui est très, 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 très bénéfique, vraiment.
Ah, c'est hyper important, ouais.
Est-ce que tu as eu, comme beaucoup de personnes, la fausse impression, parce que c'est une vraie fausse impression, d'être responsable de ce qui t'arrivait, de le mériter d'une certaine façon?
Bien sûr. Bien sûr.
Je préfère juste quand même le dire que c'est jamais de votre faute, c'est jamais de ta faute, ça n'a jamais été de ta faute. Toi, tu as ressenti ça comme ça, quoi.
Ah ouais, évidemment. Après, je me disais, mais je l'ai cherché, c'est moi qui l'ai cherché. C'était... En fait, c'est... Déjà, on a honte d'en parler à la base. Le premier pas, c'est d'avoir honte d'en parler, parce que moi, je sais que je me rappelle, j'avais honte même de dire qu'il m'avait filmé dans des positions... c'est une honte pour moi. Je me disais, mais les gens, ils vont me prendre pour qui, en fait? Et après, tu culpabilises parce que tu te dis, mais au final, t'aurais dû voir tous ces signaux. Et en fait, plus tu réfléchis, plus tu te dis...
Mais en fait, c'est de ma faute, c'est moi qui suis con.
Et à la fin, je n'étais même arrivée, mais je l'ai cherché, en fait. Ouais. Et là, c'est là où la psy... C'est un travail essentiel. Elle m'a aidée à me faire me rendre compte que non, il avait profité de ma faiblesse, qu'il m'avait violée. Il faut dire les termes, violée. Moi, j'ai eu énormément de mal avec ce terme. J'arrivais pas pendant tout un temps. Je me disais, mais non. Ouais. Et en fait, si,
c'est
cette personne voilà, m'a violée.
Ouais.
Et en fait, je pense qu'à partir du moment où tu arrives déjà à dire les termes, à dire ce qui t'est arrivé, c'est déjà une immense victoire par rapport à ce que tu as vécu.
Ouais.
Que ce soit même par rapport à l'anorexie, moi, je sais qu'à partir du moment où j'ai reconnu être malade et que j'ai reconnu souffrir d'anorexie, ça a été une victoire pour moi. Et j'en parle sur mes réseaux sociaux, sur Instagram. Et il y a tellement de nanas qui m'ont dit « Mais merci d'écrire, merci d'en parler. » Parce que moi, je n'osais pas en parler. Pareil, par rapport au viol conjugal, elle me disait « Mais moi, mon mec, il m'a abusée. » Et je n'ose pas en parler parce que tout le monde me dit « Mais c'est ton copain, en fait. T'as pas à te plaindre. » Et c'est quelque chose qui, moi, maintenant, me met dans une colère noire, en fait. Ouais. De plus en plus, j'ai de plus en plus de haine et de colère et une envie de faire bouger les choses parce que j'ai pas envie, en fait, que mes neveux et nièces grandissent dans un monde comme ça. Et j'ai peur pour eux, tu vois.
Ouais, je...
Et je pense que toi, qui as un enfant aussi, t'as assez crainte de dire...
Bien sûr.
T'as peur qu'ils grandissent pareil à l'école, qu'ils subissent aussi des choses.
Complètement.
Et que tu te sentes impuissante en tant que maman, quoi.
C'est ça. Ouais, complètement. Mais c'est vrai que nous, on essaye d'être dans une réflexion. Bon, là, il n'a que 17 mois. Mais moi, j'ai subi ces trucs à l'école. Tu vois, j'en parlais pas à mes parents. Mais parce que je pense qu'ils me questionnaient pas. Je pense peut-être que je me gourre.
Moi, ils me questionnaient pas aussi.
Je crois. Et je sais que nous, on s'est dit avec mon mec que quand notre fils ira à l'école, on le questionnera vraiment et on lui dira comment ça va, comment tu te sens, est-ce que ça te fait du bien, est-ce que tu as des copains, comment. Enfin, tu vas vraiment s'intéresser parce que je pense que les parents ont aussi vachement un rôle à jouer. Mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je suis convaincu que si tes parents avaient été, je dis pas que c'est pas bien, je les juge pas du tout, toi t'étais pas prête, c'était pas possible, mais que si tes parents ils avaient été là à te poser des questions, à dire comment ça va Sidonie, comment tu te sens, etc., peut-être, je dis pas que c'est sûr,
donné, ça aurait, peut-être.
On va passer à un petit jeu qui est un peu léger, ça fait du bien aussi, qui s'appelle l'intimidé. Juste à côté de toi, là, juste ici, il y a un petit dé. Avec sur chaque face, non pas des chiffres, mais des couleurs, rouge, vert, jaune, bleu, orange et violet. Chaque couleur correspond à une émotion et chaque émotion est reliée à une question intime. Je te propose de lancer l'intimidé pour découvrir ta petite question.
Allez, c'est parti.
Bleu. Raconte-moi un moment honteux ou embarrassant de ta vie. Ça peut être un truc très léger ou pas du tout. Le premier truc qui te vient.
J'en ai tellement dans ma vie en même temps, de moments honteux.
Où toi, tu t'es senti genre « oh merde ».
Si. Okay. J'ai un truc. Okay. Oh là là. Une fois, je me rappelle, mais je devais être au collège, je devais avoir 15-16 ans. Et en fait, j'étais partie de chez moi en jupe, sauf que je m'étais épilée qu'une jambe sur deux.
Okay.
Et je m'en suis rendue compte dans le RER, et maintenant j'en rigole. Hein. Mais alors, ouais, sur mais le ouais. coup, je peux t'assurer que quand tu es adolescente,
ah ouais.
en plus, je lisais un roman à ce moment-là, et il y avait un mec qui s'était assis, il était là, il lit un roman porno et tout. Donc en plus, putain, alors que pas du tout, t'avais juste une scène un petit peu olé olé dans le livre. Ouais. Et je me rappelle que j'essayais de cacher ma jambe à moitié poilue. Et maintenant, je rigole. Parce que
t'avais juste oublié, en fait.
En fait, ouais, j'avais pas fait gaffe. Et je me rasais à ce moment-là, à cette période-là. Et tu sais, j'avais dû me raser vite fait en partant. J'avais dû faire une jambe. Hop, je vais fumer une clope. Je refais la deuxième. Et puis, bah non, quoi.
C'est fou parce que ces trucs-là qui sont si... Enfin, tu vois, anecdotique et genre maintenant on en rigole.
Ah, sur le moment, t'as envie de mourir.
T'as envie de te cacher.
Ah, mais clairement, ouais, si j'avais pu me cacher sous la rame de métro, même me mettre à quatre pattes sous les chaises, je l'aurais fait.
Je comprends. Est-ce que tu peux. Comment on dit déjà ? Lancer le dé à nouveau ?
Oui.
Alors, c'est du rouge. En même temps, je sais un peu maintenant, mais qu'est-ce qui te met en colère ? Est-ce qu'il y a un truc où.
L'injustice particulièrement et les violences faites aux enfants. Moi, je sais que les enfants, c'est quelque chose... déjà, et puis les troubles du comportement alimentaire, les personnes qui jugent les TCA.
Ouais.
Tu vois, moi, je sais que l'anorexie, quand j'en faisais, et que j'étais vraiment dans une période où même l'idée de manger, je me mettais à pleurer, tu vois. Rien que l'idée de manger, je sais que ça peut paraître ouf pour certaines personnes, mais en fait, je me mettais à pleurer tellement pour moi, c'était impensable. Et les gens qui disent que les TCA... c'est rien de grave, que machin... Si, ça mène à la mort, en fait, les TCA. Ça mène à la mort, ça mène... c'est un sujet qui est très dangereux, tu peux en mourir. C'est l'une des plus gros... Enfin, c'est l'une des causes de mortalité chez la femme, c'est les TCA. Et je pense que notre société a un énorme rôle à jouer là-dedans sur l'acceptation du corps de la femme, d'arrêter d'en faire un objet de désir.
Ouais.
Et que chaque femme soit comme elle est, en fait. Chaque corps est beau. Y a des corps qui sont moins beaux que d'autres, mais c'est normal, t'as d'autres qualités à ce moment-là.
Et puis la beauté, c'est tellement subjectif.
Et puis la beauté, ça veut rien dire, c'est ça. La beauté, au final, tu peux être belle un jour et puis le lendemain, non. Enfin, et puis la beauté, c'est subjectif aussi pour chacun. Quelqu'un peut trouver beau quelqu'un et une autre personne, moins.
Et puis la beauté, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire aussi?
C'est
après, ça, c'est une autre discussion.
C'est ce que j'essaye, moi, en ce moment, de me détacher de mon corps. Pas de me détacher de mon corps, mais de me détacher de mon niveau d'acceptation de moi-même vis-à-vis de mon poids, tu vois.
Ouais.
Et ça, c'est un travail. Et l'anorexie, je sais que j'en guérirai jamais. Je sais que toute ma vie, je l'aurai et que ça sera toujours mon moyen de défense contre ce que je vis. Mais je sais aussi maintenant qu'on peut en sortir, qu'il y a des moyens qui sont mis en place et qu'il ne faut absolument pas minimiser l'impact que ça peut avoir.
Non, je suis complètement d'accord avec toi. Podcast. Avant qu'on conclue, je voulais aussi parler de l'harcèlement un peu de rue, un peu tout terrain. Est-ce que toi, tu as déjà été victime de harcèlement de rue? Est-ce que c'est quelque chose que tu dis oui, mais j'ai l'impression qu'en fait, toutes les femmes ont subi ça.
En fait, je pense que toutes les femmes l'ont subi. Moi, j'ai remarqué, j'ai juste remarqué un truc, je subissais plus d'harcèlement quand j'avais 15-16 ans que maintenant à 28 ans. Et du coup, dans ma tête, je me dis, est-ce qu'il y a le truc de la jeune fille qui attire? Est-ce que c'est une question d'âge? Tu vois, il y a tout un truc à se poser comme question. Est-ce qu'on paraît plus vulnérable aussi à cet âge-là?
Peut-être.
Alors que maintenant, on est quand même plus décidé, plus...
Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi je sais, et peut-être c'est la même chose de ton côté, mais dès que je parle de ça avec des nanas, en fait, toutes me disent oui. Et d'ailleurs, en France, il y a 100% de femmes, 100% de femmes qui prennent les transports en commun, et 100% ont déjà été victimes de harcèlement sexiste ou sexuel. Et puis c'est évident, moi, dans les transports en commun, j'ai vécu des regards, des frotteurs, des mecs qui ont sorti leur tub.
J'ai vécu
ces trucs-là.
Surtout devant un enfant, tu sais, moi, il y avait un exhibitionniste, hop, la parka, vraiment
dans
les films. Me chatouille.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est juste... quand même, il y a quand même un truc que parce que je sais pas s'il y a beaucoup de garçons qui écoutent le podcast, mais c'est vrai que quand on parle beaucoup de féminisme et aussi de rapport au corps, que la femme n'est pas un morceau de viande, etc., je sais qu'il y a quand même pas mal de gens qui disent « Ah, mais ça va !» Et en fait, non, ça va pas, parce que dans la réalité, dans le concret, en fait, on a toutes subi ça. Et que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on a un morceau de viande, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on a forcément envie de niquer, et que c'est pas parce qu'on porte un décolleté que c'est un appel... tu vois, c'est important de le dire.
Notre tenue, c'est juste nous qui avons envie de nous habiller comme ça. En aucun cas, on ne va s'habiller pour quelqu'un et se dire « Ah bah chouette, je vais montrer mes boobs, donc on va venir m'attirer. »
Exactement. Non. Et ça, c'est difficile à déconstruire, parce qu'il y a quelques mois, je vois une nana, je suis dans la rue, et je vois une nana peut-être de 15 ans qui a habillée très court de partout, tu vois. Et à la fois, je me suis dit, putain, mais pourquoi elle s'habille comme ça? Tu sais, j'ai eu les deux pensées. Hein. Je me suis dit, putain, pourquoi elle s'habille comme ça? On va la faire chier. Et après, je me suis dit, mais je n'ai pas à penser comme ça, en
pareil,
fait. Tu vois?
Exactement.
Et c'est terrible.
Exactement,
c'est
les terrible. Mêmes pensées où je me reprends et je me dis, non, mais attends, tu vas pas commencer à la juger.
Ouais, ouais.
Et d'un côté, ouais. c'est plus. T'as peur pour elle, parce que tu sais ouais. ce qui peut arriver. Quoi.
Ouais, ouais. Est-ce que, encore maintenant, tu flippes de rentrer toute seule chez toi le soir ?
Je ne sors pas le soir.
Ah, tu ne sors pas ?
Je ne sors pas. À partir de 20h, je ne sors pas.
Est-ce que parfois tu sors, mais du coup tu rentres avec quelqu'un pour pas être seule ?
Soit ma maman, gentiment, vient me chercher, parce okay. qu'elle sait à quel point j'ai très peur. Ou alors, exceptionnellement, je prends Uber, mais je t'avoue qu'avec tout ce qui est sorti dernièrement sur Uber...
Ah bah justement, c'était la prochaine
flippe.
Question.
Et
justement,
ben voilà.
Est-ce que t'as déjà eu des mauvaises expériences avec des VTC, toi, ou pas ?
J'ai déjà eu des hommes un peu chelous, ouais. tu vois, mais ça n'a jamais été... je leur faisais bien comprendre. Moi, à chaque fois, j'ai la technique de... Je fais semblant que mon papa m'appelle.
Ouais.
Alors, je sais que c'est bateau, mais en attendant, moi, ça me rassure et ça marche. Et tu vois, des chauffeurs qui s'arrêtaient au milieu de la rue. Viens, on va fumer une clope. Non,
ouais.
en fait,
ah
non,
ouais.
j'ai juste envie de rentrer chez moi, quoi. Et du coup, c'est vrai que moi, je regarde systématiquement le numéro de la plaque d'immatriculation.
Ouais.
Je vérifie aussi sur l'application. Et ça, c'est hyper important. Je préviens toujours quelqu'un quand je suis dans un Uber, que ouais. la personne puisse suivre mon itinéraire.
Voilà ce que c'est d'être
mais
une femme fou. En 2022.
Voilà, c'est ce que j'allais
quoi.
Dire. C'est ouais. fou quand même tout ce qu'on doit mettre en place.
Ouais, ouais,
et
ouais.
tout ce qu'on... Surtout, moi, je me disais, tout ce qu'on met en place, même sans s'en rendre compte, tu vois, mmh. avant de sortir.
Mmh. Ouais, je suis d'accord.
Avant de sortir, moi, je sais que j'ai toujours un mini couteau que m'a offert ma grand-mère et que je garde tout le temps sur moi, qui est mini, ouais. mais ça me rassure, en fait, de me dire...
Oui, mais en même temps, je vais te dire, je trouve qu'encore une fois, avec tout ce que tu nous as raconté, et encore une fois, on n'a pas... On n'est pas rentré dans chaque ouais. sujet à fond.
Oui, j'ai beaucoup parlé.
Non, mais c'est fait pour, hein. C'est vraiment fait
je
pour. Exactement, allez, faisons un podcast juste avec Sidonie. Non, non, mais je trouve qu'avec tout ce que tu nous racontes, enfin, c'est normal que tu aies peur. Enfin, c'est normal, en fait, j'entends, tu vois, que t'aies peur et que tu te protèges, et etc. Donc, et surtout, je pense vraiment qu'avec le travail que tu fais avec ta psy et peut-être ailleurs, enfin, je ne sais pas exactement ce que tu fais comme travail actuellement, mais je pense que tout ça va être vraiment salvateur après. Et petit
ouais.
à petit, j'ai l'impression que déjà, tu vas devenir ici d'en parler, alors que tu dis que ça fait que 6 mois que ça va mieux.
Ouais.
Enfin, c'est énorme.
J'avais peur, hein. J'avais peur de m'écrouler.
Bah,
j'avais peur, tu vois, de dernier moment, de faire une crise d'angoisse terrible parce que je suis encore sous traitement médicamenteux. Et ça aussi, il ne faut pas avoir peur de prendre des médicaments parce que ça. Enfin, je sais que moi, j'étais la première à dire je ne veux jamais prendre de médicaments, mais ça peut vraiment être un soutien et une aide dont on peut avoir besoin et il ne faut pas en avoir honte en fait.
Ouais.
Tout le monde peut en avoir besoin un jour et ça fait du bien et si c'est mis en place, bah, c'est tant mieux quoi.
Ouais, ouais. Je suis bien d'accord avec toi. On va conclure un petit peu cet épisode. Je voulais te poser 2 petites questions. Comment mettre fin à ce fléau global, selon toi, qui est le harcèlement ? Et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Est-ce qu'il y a des choses, selon toi, qu'on peut mettre en place ? Moi, j'ai l'impression que déjà, rompre le silence, tu vois,
ouais,
c'est quand même un truc
déjà.
Qui est hyper important.
Surtout l'éducation aussi. Je pense qu'il y a beaucoup qui passent par l'éducation. Je sais que l'éducation, je sais que c'est pas quelque chose qui est évident parce que je me rends compte
oui.
que chacun a des moyens différents,
bien
chacun.
Sûr.
Et je sais que ça, c'est voilà. Moi, j'ai eu de la chance aussi d'avoir une famille où on avait les moyens, donc forcément, ça aide, tu vois. Mais l'éducation des enfants, que tous les enfants peuvent être différents, que le monde entier est différent, et que c'est pas parce qu'un tel a une différence que pour autant il faut se moquer.
Ah, ça,
et,
c'est sûr.
Ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on ne dit pas encore assez aux enfants en bas âge, tu vois, même
ouais.
si c'est compliqué. Et c'est aussi même si, voilà, je sais que l'éducation, scolairement parlant, que les profs et tout, ils ont déjà énormément de travail. Et je sais qu'ils ont
ouais.
déjà énormément de choses
bien
à
sûr.
Penser, mais être vigilant. Moi, ma
ouais.
sœur, elle est infirmière scolaire en milieu de collège, etc. Et je sais que dès que j'ai su qu'elle avait ce poste, on en a beaucoup parlé toutes les deux,
ouais.
parce que je lui disais, fais attention, essaye de remarquer les symptômes. S'il y a des élèves qui viennent beaucoup te voir, des trucs tout bêtes, mais
ouais.
qui peuvent sauver la vie d'un élève quand même. Quoi. Parce
ouais,
qu'on
ouais.
voit que ces derniers temps, il y en a quand même des élèves qui mettent fin à leur jour
ah,
à
oui,
cause
oui.
justement
bah, oui, oui.
des dangers d'Internet,
ouais.
du cyberharcèlement qu'il y a en plus de l'école. Hop,
ouais,
tu
ouais.
retournes à la maison. Allez,
t'es jamais tranquille.
Couche, quoi.
Ouais, ouais. S'il y a des personnes qui nous écoutent là et qui sont victimes justement de harcèlement, de cyberharcèlement, d'intimidation, etc. Alors je sais que c'est pas facile d'en parler et que c'est un moment qui est compliqué parce qu'on a l'impression que on va se foutre de notre gueule, qu'on a la
ouais.
honte, qu'on le mérite, etc. Sauf que vraiment, encore une fois, sachez que c'est pas de votre faute, jamais, jamais, jamais. Et moi, les seuls conseils, même si vous ne m'en demandez pas, les seuls conseils que je peux vous donner, c'est vraiment vraiment d'essayer de rompre la loi du silence qu'on s'impose nous-mêmes, d'essayer de convaincre, en fait, de vous convaincre d'en parler, d'en parler à vos parents, que ce soit à l'école ou à votre boss, enfin, j'en sais rien, à des amis, mais vraiment de communiquer, d'en parler. Et surtout, si vous êtes aussi amis ou en tout cas témoin de ce qui peut se passer dans le travail, etc., de repérer les signes de harcèlement.
Ouais,
parce que c'est un vrai sujet, hein, vraiment, on parle de harcèlement, on en parle beaucoup, on utilise un peu ce mot à volo.
Ouais, c'est ça, c'est à volo.
C'est ça qu'on dit ?
Ouais, je crois.
Bon, bah voilà, bref. En tout cas, c'est vrai que ce terme-là, il est un peu employé parfois pour tout et n'importe quoi. Mais la réalité, c'est que le harcèlement existe, le cyberharcèlement existe aussi et que c'est un vrai sujet, vraiment. Et comme si Denis le disait, en fait, il y a des gens qui en meurent, il y a des gens qui ne sortent plus de chez eux parce qu'ils ont peur. Et
la
faut
vie
vraiment,
peut être ruinée à cause de ça. Moi, ça a grandement influencé une partie de ma vie. Et je sais pas ce que ça serait devenu sans le harcèlement. Mais je sais que ça a été très, très compliqué d'en revenir. Et il y a aussi quelque chose que je voudrais rajouter. La police a mis en place quelque chose de génial. Vous n'osez pas appeler au téléphone directement ou si vous n'osez pas vous rendre directement dans un commissariat, vous pouvez chatter en ligne avec un policier directement. Mmh. Et en fonction des faits, etc., un enquêteur vous rappelle le lendemain ou le surlendemain. Et ça, moi, c'est grâce à ça que j'ai réussi à porter plainte il y a 3 mois. Et ça m'a vraiment sauvée parce que j'aurais pas été capable de faire la démarche s'il n'y avait pas eu cette aide en ligne grâce à Internet. Il y a quand même des belles choses.
Il y a le 30-20 pour signaler une situation de harcèlement et il y a également le 30-18. Il s'agit d'une ligne spécifique pour signaler une situation de cyberharcèlement. Voilà, donc c'était important de le préciser. Ouais. Je te remercie beaucoup vraiment, Sidonie, d'être venue parce que je sais que c'était pas évident pour toi et que ça fait que 6 mois c'est aussi beaucoup que tu sors un peu de tout ça.
Presque une grossesse.
Ouais, non, mais c'est quand même, je te remercie vraiment d'être venue t'exprimer.
Merci à vous, surtout à ton équipe et à toi pour votre bienveillance parce que ce que je disais par mail, je pense que j'aurais pas pu rêver, j'aurais pas accepté avec quelqu'un d'autre qu'avec toi. Parce que je suivais tes vidéos et je sais la bienveillance que tu as. Et je sais que t'es pas là pour nous faire parler de choses dont on n'a pas envie de parler ni rien.
Pas du tout.
Et voilà, c'est ça que j'aime beaucoup.
Bah écoute, je te remercie et je te remercie vraiment de ta confiance.
Je resterai abonnée à ta chaîne.
Ok, super, merci beaucoup. Je te remercie de pas me unfollow. Non mais c'est vrai que c'est jamais évident de prendre la parole sur des sujets aussi sensibles, donc vraiment merci. Je voulais aussi vous remercier, vous, chers auditeurs, chères auditrices, merci pour votre fidélité et vos retours hyper positifs. Ça fait vraiment très plaisir, ça me fait beaucoup de bien et je me sens vraiment à ma place dans ce podcast-là. Donc n'oubliez pas de vous abonner au podcast si ce n'est pas encore déjà fait. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et sur Twitch. N'oubliez pas qu'il y aura un nouvel épisode hors série le mardi 22 novembre. Dans ce live, il y aura 2 invités. On a plus de temps pour discuter et surtout, vous pourrez nous poser vos questions. Mardi prochain, on parlera de 2 maladies extrêmement courantes dans le monde, la dépression et l'anxiété. Encore un gros dossier en perspective et il y aura sans doute beaucoup de choses à dire là-dessus. Et d'ailleurs, je vous le dis, ce sera avec mon meilleur ami. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine, même studio, même micro. Je vous embrasse. Ciao. Podcast. Podcast.